21h passées de quelques secondes, bonsoir à toutes et à tous et merci d'avoir noté ce nouveau rendez-vous de Wagon Livre, votre émission littéraire chaque mercredi sur Radion. Ce soir, une émission à caractère un petit peu particulier puisque une grande figure de la littérature va s'exprimer devant notre micro. En effet, il s'agit de Dominique Fernandez. Dominique Fernandez est agrégé d'italien, il est essayiste, romancier. Et il vient de faire paraître aux éditions Grasset Transsibérien, qui est le récit d'un voyage qui a eu lieu en mai 2010 à bord du Transsibérien. Alors, Dominique Fernandez, pour rappeler un peu l'homme qu'il est, tout d'abord, il est académicien, comme je l'ai dit, il a été reçu sous la coupole en mars 2007, au siège laissé vacant par le décès du professeur Jean Bernard. Il est l'inventeur de la psychobiographie, c'est un grand voyageur, un amoureux de l'art baroque et de la culture italienne. Et on rappellera que Dominique Fernandez a obtenu le prix Médici en 1974 pour un roman intitulé « Porporino ou les mystères de Naples ». Et puis, en 1982, il y a maintenant 30 ans, Dominique Fernandez a décroché le prix Goncourt pour un roman sur la vie de Pasolini et qui avait pour titre « Dans la main de l'ange ». Mais ce soir, nous allons parler de la Sibérie, de la culture russe et de l'âme slave avec notre invité Dominique Fernandez. Il s'agit d'un entretien enregistré à Dijon le mois dernier alors que Dominique Fernandez était l'invité du Club des écrivains de Bourgogne. L'entretien s'ouvre sur le respect que j'ai à m'entretenir avec un membre de l'Académie française.
Pourquoi ? C'est pas...
Ou le spécialiste de l'Italie ?
Ah non, je ne suis pas spécialiste de rien du tout.
Vous n'êtes spécialiste de rien ?
Je suis amatore, au sens italien, amateur, qui aime.
Alors, on va parler, justement, sans doute avec passion et amour, de votre dernier écrit, Transsibérien, paru aux éditions Grasset, avec des photographies de Ferrante Ferranti.
Oui, qui est mon photographe habituel, mon ami. J'ai fait 20 livres avec lui déjà depuis... 30 ans.
Alors expliquons aux auditrices et auditeurs que le 28 mai 2010, vous montez à bord du légendaire Transsibérien, accompagné donc d'écrivains, oui. De journalistes, oui. Des écrivains français et russes.
Non, il n'y avait pas de russes, c'était des écrivains français. Il y avait des interprètes russes, il y avait des journalistes russes, mais pas d'écrivains russes. C'était un cadeau offert par la Russie aux écrivains français.
Dans le cadre de l'année
franco-russe.
Alors évidemment... Transsibérien. Moi, je pensais tout de suite à Blaise Cendrars. C'est vrai que vous en parlez au tout début, mais c'est pas ce qu'on retient le plus.
Non, Cendrars, il a fait un poème connu qui est pas très bon, et c'est le seul écrivain français qui ait mis le mot transsibérien quelque part. C'est pour ça qu'on a. Mais il y a des écrivains français qui, comme Jules Verne, comme Dumas, comme Paul Morand, qui ont bien mieux parlé de la Russie. Kessel, enfin c'est.
Alors effectivement. Vous aussi, vous en parlez merveilleusement bien de la Sibérie, parce que si on fait une tempête d'idées en évoquant Sibérie, il est évident qu'on pense au bagne de l'époque impérialiste, oui, et bien sûr le goulag.
Voilà, ça c'est un des clichés, un des nombreux clichés sur la Russie, contre la Russie. Il y a eu le bagne. D'abord, je voudrais tout de suite préciser qu'on associe Sibérie à goulag, comme si c'est Staline qui avait inventé le bagne. Or, c'est Pierre le Grand qui a envoyé les premiers vieux croyants, c'est-à-dire les dissidents religieux, déjà en Sibérie au XVIIIe siècle. Puis Catherine II les a envoyés. Et puis tous les tsars au XIXe siècle. Donc la Sibérie a toujours été la prison russe. C'est pas à peine de les mettre en prison, puisque à cette époque, aller en Sibérie, c'était comme une espèce de mort civile. Donc Lénine et Staline n'ont fait que perfectionner le système, mais c'est pas du tout une invention communiste, hein.
Voilà. On est bien d'accord, vous le dites bien dans le livre.
C'est très important.
Vous mentionnez tout de même un chiffre, 600 000 déportés de 1801 à 1887.
Oui, déjà pas mal.
C'est déjà énorme.
Et après, des millions, parce qu'aujourd'hui, la police est beaucoup mieux faite. Mais le principe même de l'exil à vie pratiquement et à mort, enfin, parce qu'on mourait de froid. Il n'y avait pas besoin de tuer les gens. Ils mouraient tout seuls de faim, de froid, de solitude. C'est un vieux système russe.
La Sibérie a tout de même été aussi une terre de repli. Ça, c'est extraordinaire de penser que pendant la Seconde Guerre mondiale, les usines russes ont été démontées et finalement remontées derrière l'Oural, là où l'aviation allemande ne pouvait pas venir.
La Sibérie a sauvé la Russie. Parce qu'ils ont délocalisé les usines d'armement. Et également, comme les Russes, ça, j'y insiste beaucoup, ils aiment la culture avant tout. Les collections d'Ermitage ont été envoyées aussi là-bas. Et les orchestres. L'orchestre, la Philharmonie Leningrad, qui était un des plus grands orchestres du monde, a été envoyé à Novosibirsk, qui est devenu donc une capitale de la musique. Ça, c'est très. Moi, ça j'attache beaucoup d'importance à ça, parce que les Russes ont attaché autant d'importance à la musique et à la peinture qu'au tank et aux avions. Et ça, on ne lit jamais, ça, vous voyez.
Alors, vous parlez d'un devoir de mémoire, donc, aussi envers des millions de victimes. Oui. Vous vous sentiez dans ce devoir de mémoire aussi en écrivant ce livre. Bien sûr, il y avait ces images magnifiques, j'imagine, de cette immensité de la Sibérie, de cette variété culturelle, ethnique, religieuse.
Oui.
Et vous étiez aussi dans la volonté d'un hommage rendu aux victimes.
Oui, mais pas tellement. Bien sûr, on pense à ces millions de gens qui ont péri depuis trois siècles. Mais moi, ce qui m'a surtout intéressé en Sibérie, c'est quand même la vie aujourd'hui. Et alors, c'est fini, ça, le bagne, c'est des vieilles images. Ça n'existe plus. Maintenant, c'est un pays en pleine expansion économique, avec une vie culturelle intense. Il y a des grandes villes de 2 millions d'habitants que nous ignorons jusqu'au nom. Et c'est ça qui m'a le plus intéressé, quand même.
Alors, le voyage, donc, c'est une semaine. C'est
trois semaines. Pour nous.
Pour vous, parce qu'il y avait des étapes.
Voilà,
on est d'accord. Mais autrement, si on prend le transsibérien de Moscou à Vladivostok, c'est une semaine. Trois semaines pour vous, où vous vous arrêtez de ville en ville. Alors, première étape, Moscou. Bon, il y a cet hôtel absolument effrayant à Moscou.
Oui, enfin, moi, j'ai connu ça, parce que c'est des hôtels soviétiques, c'est avec des vieux, des faux meubles en acajou plaqué, un énorme frigidaire vide au milieu de la pièce. Des robinets invraisemblables. Mais c'est assez touchant, c'est l'époque soviétique. Quoi.
Et ce qui m'a fait sourire, c'est l'irrévérence que vous avez à l'égard du mausolée de Lénine. Vous dites le vieux pourri délaissé. Alors je vous ai mal compris.
Non, mais c'est ironique. Non, je ne suis pas du tout révérent. Non, vous savez que Place Rouge, il y a le mausolée de Lénine, qui autrefois était obligé d'un culte. Mm-hmm. Il y avait 3 km de queue, forcé, tout le monde devait aller. Maintenant, il n'y a plus personne. Et en face, il y a des magasins de grand luxe. C'est Dolce & Gabbana, c'est Prada, c'est Chanel, c'est Dior. Et donc, c'est la défaite du communiste devant le capitaliste. Il y a une revanche du capitalisme le plus arrogant. Alors, quand je dis vieux pourri, c'est ironique. Parce que Lénine, bon, c'est un criminel, on le sait, mais c'est aussi un grand homme, quand même, qui a fait la Russie moderne. Je veux dire. Et c'est assez choquant, je trouve, de le voir comme ça, battu à plat de couture par le capitalisme le plus arrogant.
Le capitalisme financier.
Des boutiques où les Russes ne peuvent pas aller tellement c'est cher, vous voyez.
On est loin de l'ampoule Lénine, maintenant. C'est un vieux souvenir. Alors, il y a Moscou. Alors, moi, j'ai appris ce qu'était qu'un Kremlin. Je ne savais pas que c'était
Dans toutes les villes, il y a un Kremlin. C'est une colline, en général, un rempart qui t'a. Et c'est là où, au Moyen-Âge, enfin même bien après, le village ou la ville se réfugiait en cas d'attaque contre les Mongols, les Huns, etc. Donc Kremlin, ça veut dire village fortifié. En fait.
Et alors l'audace des Russes, c'est là qu'on voit quand même le souffle révolutionnaire, c'est qu'ils sont capables de débaptiser des noms de villes. C'est le cas donc de Nijni Novgorod, qui a été rebaptisé du nom du romancier Gorki. Oui. Ça, c'est exceptionnel. Alors Gorki, comment est-il mort, Dominique Fernandez? A-t-il été empoisonné par une boîte de chocolat offerte par Staline?
Oui, enfin plus vraisemblablement par un médecin qui lui a fait une injection létale, parce que c'était la méthode. Oui, Gorki, c'était un grand, très grand écrivain qui a maintenant, qui n'est pas en, qui est plutôt rejeté par les Russes aujourd'hui parce qu'on l'accuse justement d'avoir été stalinien, ce qui est absurde parce que son œuvre a été écrite avant la Révolution. Le gros de son œuvre.
Mais il s'est exilé quand même à une période aussi.
Mais il n'était pas d'accord avec Lénine après la Révolution, qu'il a appelé de ses voeux. C'était un enfant du peuple, Gorki. Hein. C'était à 10 ans, il ramassait des planches et gagnait sa vie. Donc il a bavé, il a vu la misère. Il ne faut pas oublier, parce qu'on condamne le communisme, mais on oublie l'état de misère où était le peuple russe en 1900, au début du siècle, enfin au début du sous les tsars. Il y avait une élite très fortunée, très, très riche, très brillante, et puis le reste, c'était des gens qui vivent dans la boue. Enfin dans...
Des esclaves,
oui.
Avec un servage, voilà, des maîtres qui battaient. Les...
Voilà, et Gorki a donc, c'était un enfant du peuple, qui s'est autodidacte, qui a appris à lire, à écrire, et donc a appelé normalement la révolution de ses voeux. Et puis quand c'est arrivé, il n'était pas d'accord, il a écrit des articles terribles contre Lénine, il a été exilé, il était vivant en Italie, à Capri, à Naples et à Capri, et puis Staline a réussi à le rappeler vers 1930, il était prestigieux, c'était l'écrivain mondialement connu. Et le régime avait besoin d'une caution littéraire. Donc Gorki est revenu comme écrivain officiel. Puis il s'est aperçu que ce n'était pas encore ça. Il a commencé à critiquer. Et finalement, il est mort très bizarrement et sans doute tué par Staline. Enfin. Один казак из дому свалил, ой, скучал, один казак по дому, коню на гриву повод уронил, ой, скучал, один казак по дому, коню на гриву повод уронил, эх, разлетались кудры рассыпную, а доме думка мучила его, и так не делал синюю степную, а в той доли не видно ничего, и так не дело синюю степную, а в той доли не видно ничего. Тряхнул казак чуваны головою, сказал своим товарищам с тоской, на сердце молодое, ой, как мне, братцы, хочется домой. Эх, избавено сердце молодое, ой, как мне, братцы, хочется домой. Иди скорей, дороженька, дорога, разве казачью думу и тоску? В этот ты поднял коня и холод, и свистнул сабли острый на скаку. В этот ты поднял коня и холод, и свистнул сабли острый на скаку. А в Сибири полки со славой громкой все шли, шли, сдевались на подъем.
C'était les chœurs de l'Armée rouge qui nous interprétaient les vaillants cosaques. Retour en Sibérie pour le périple qui nous occupe ce soir à bord de Wagon Livre avec notre invité Dominique Fernandez, membre de l'Académie française.
À Kazan, oui. Vous racontez un épisode qui est touchant. Il y a un jeune russe qui vient vous voir et qui vous demande si vous connaissez Jean Genet. Alors pour nous, bourguignons, Jean Genet, c'est cet enfant de l'assistance publique qui a grandi dans le Morvan. Et c'est extraordinaire de voir l'académicien français qui est interrogé sur Jean Genet, le mauvais garçon, mais aussi cet homme brillant qui a fini d'ailleurs de manière misérable.
Oui, mais c'est la seule belle... Vous parlez du jeune homme là, qui m'a donné les pièces de monnaie, c'est le même.
Je parle de ce jeune homme qui vous demande une dédicace et qui...
Oui.
Ah, son ami Ruslan.
Voilà, c'est Islan ou Yvan, je ne sais plus. Non, ça, c'est très émouvant. On a fait des rencontres organisées qui étaient assommantes. Vous savez, langue de bois, parce qu'on ne se connaissait pas. Alors, on vous demande, vous connaissez notre ville, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, j'en pense rien, parce que je ne la connais pas. Enfin, voilà. Et à l'issue de ces rencontres, un jeune homme très timide, qui ne parlait pas français, moi pas russe, donc Georges Genet, on comprend par l'interprète, et il me dit, il me fait signer un livre pour son ami Yvan, il me dit pour votre parcours, enfin, etc. Je comprends que il voulait faire passer un message, me remercier du combat que j'avais mené pour l'homosexualité en France. Alors qu'en Russie, vous savez, ils sont une homophobie. Oui. Moi, j'adore les Russes, comme je le montre. Mais ils sont antisémites, ils sont racistes, ils sont homophobes. Ça, c'est terrible. Moi, je m'engueule avec mes amis là-dessus. Et donc, il m'a fait passer ce message à travers Genet, etc. Et c'était très émouvant parce qu'on ne s'est presque pas parlé, mais il m'a dit quelque chose. Et moi aussi, sans se dire, c'était très beau.
Alors, il y a, bon, je ne vais pas égrener toutes les villes comme ça, il y a Ekaterinbourg, il y a Krasnoïarsk, qui est un ancien fief cosaque. Il y a, alors ensuite, il y a les fleuves, alors qui font rêver. Alors, on dit la Volga ou le Volga, Dominique Fernandez?
Alors,
parce que vous aimez bien ce jeu, et d'ailleurs, dans Porporino, il y a ce jeu, comme ça, sur masculin, féminin.
Oui, et parce que, alors, chez Dumas et chez Jules Verne, ils disent le Volga. Mais même Hélène Carrère d'Encausse, qui est interprétée de l'Académie française, russe, m'a dit, mais non, ça, c'est la seule chose que je conteste dans votre livre, c'est la mère Volga pour les Russes, donc c'est féminin. Alors, bon.
Donc, la Volga est le plus long fleuve d'Europe.
Je crois, oui. Alors, qui coule, alors c'est très curieux, parce que lui, il coule du nord au sud, comme les fleuves normaux, si je puis dire, alors que les fleuves sibériens coulent du sud au nord, c'est très curieux. Par exemple, le Yénisseï, l'Amour, tout ça, ils vont se perdre dans l'océan polaire arctique.
Alors, il y a le lac Baïkal, une immensité, là aussi. Alors, le fameux fleuve Amour. Alors, je suis super déçu, Dominique Fernandez, parce que je me rends compte qu'en russe, Amour ne veut rien dire du tout.
Non, mais c'est ça qui est beau, justement. C'est pas du tout le mot Amour français, c'est Amour. C'est un mot sibérien qui veut dire rien du tout, comme vous dites la Seine ou le Rhône. Mais c'est un fleuve qui a mythique, et on vous avertit à la veille, l'heure où on va le traverser pour qu'on ne le rate pas.
Oui, là, il y a eu un raté.
Il y a eu un raté, suspense. On l'a rattrapé. C'est des fleuves qui ont 3 km de large. Et alors, ce qui est beau, c'est fleuves russes, comme la nature russe, il n'y a aucune maison, il n'y a rien d'humain. C'est des fleuves dans la nature. On n'a plus ça ici. Il y a tout le temps quelque chose. Il y a toujours des pontons, des bateaux, quelque chose. Il n'y a rien.
C'est vierge, quoi. Quasiment vierge, quoi. Donc, le fleuve Amour, c'est plus de 4400 km. Et c'est le plus long fleuve de Russie. Alors, il y a Vladivostok. Alors, Vladivostok, c'est le terminus.
Oui.
Et vous dites que c'est un mot d'une sonorité éclatante, Vladivostok.
Oui, c'est très beau. Moi, j'aime beaucoup. La ville est un peu décevante parce que c'est une ville, au fond, c'est la seule qui nous est un peu déçue. C'est une ville militaire. C'était une ville interdite, d'ailleurs. C'est une ville un port de guerre. Donc, c'est des casernes, c'est des choses. C'est un peu grisâtre. Et c'est resté un peu soviétique.
Alors, à Vladivostok, vous rencontrez, c'est un jeune, je crois, chauffeur de taxi.
Ah oui, ça, c'était merveilleux. Ça.
Alors, lui, il apprend le français et il aime le français à travers Joe Dassin. Et alors, Grand Corps Malade.
Voilà, c'est-à-dire comment ça s'appelle, le slam.
C'est du slam, c'est ça.
Et encore, j'ai vu Grand Corps Malade, c'est très bien pour apprendre le français parce que c'est moins chanté. C'est parler un peu, c'est psalmodier, le slam. Donc, c'est beaucoup plus facile. Si on veut apprendre le français... Parce qu'il ne savait rien de français sur le taxi. Mais il avait le mythe de la France, parce que les Russes adorent la France. Hein. C'est un vieux mythe.
Une vieille complicité, quand même.
Depuis Pouchkine. Comme les Français devraient adorer la Russie, s'ils n'avaient pas ces clichés stupides véhiculés par les médias qui sont... Ça, vraiment, il faut le dire. Hein.
Dites-le.
C'est que quand on entend parler de la Russie dans les grands médias, la télé... Et les radios, pas la vôtre évidemment, mais c'est pour dire la corruption, la mafia, la guerre de Tchétchénie. Jamais on vous parle de la prodigieuse vie culturelle, par exemple, bien plus intense qu'ici. Jamais on vous dit la vie des théâtres, les concerts, l'opéra, la musique, que les gens lisent, tout ça, on n'en parle jamais. Alors, moi, mon livre, je l'ai écrit en partie aussi pour lutter contre cette image totalement négative de la Russie. Alors que c'est un pays magnifique, prodigieux, passionnant, vous voyez.
Alors un certain nombre de vos livres sont traduits en russe, mais vous n'avez pas rencontré beaucoup de lecteurs.
J'ai trois livres traduits, mais vous savez, être traduit en russe, vous êtes traduit à Saint-Pétersbourg, mais il n'y a plus de distribution, tout ça complètement éclaté. Puis là-bas en Sibérie, vous pensez bien que ça n'arrive pas.
Alors j'aimerais bien, Dominique Fernandez, que vous nous parliez de l'aventure extraordinaire de Gleb Travin. Alors c'est un Sibérien voilà qui a fait qui a parcouru la Sibérie à vélo.
Il n'a pas parcouru, il a fait le tour.
Il a fait le tour.
En 1930, il est parti, je crois, de Vladivostok ou d'Irkout, je ne sais plus, en vélo, seul, avec un pneu de rechange et une sacoche. Et ça a duré, je crois, 3 ans, parce que c'est le quart du globe, la Sibérie. Et il a bravé le froid. Il s'est amputé lui-même de ses doigts. Vous savez, c'était effrayant. Et alors, ce qui est le plus touchant, si vous voulez, c'est que il a été très peu aidé. Et quand il a fini son tour, ça n'a pas été jugé comme un exploit, parce que l'époque était au collectivisme. On refusait l'exploit individuel. L'individu s'était rejeté. Donc, on n'a pas célébré. Il n'a même pas été... Aujourd'hui, vous pensez que ce serait un triomphe. Je veux dire, vous voyez, n'importe quel type qui traverse à la voile, suivi par les hélicoptères, l'océan, on en fait un héros. Lui, il n'y avait personne pour l'assister. Hein. Il n'y avait pas d'aide, pas d'assistance, pas rien. Mais il n'a pas été reconnu comme héros parce que c'était contraire à l'idéologie stakhanoviste, du collectivisme, tout ça.
Un wagon livre aux couleurs de la Russie et de la Sibérie ce soir sur votre radio locale en compagnie de l'auteur de Transsibérien qui vient de paraître aux éditions Grasset. Il s'agit de Dominique Fernandez, membre de l'Académie française.
Votre livre Transsibérien, c'est une photographie de la Russie actuelle. Et oui, c'est vrai, vous l'avez dit, on n'est pas toujours spécialement réconforté, puisque les Russes sont quand même, vous le dites, majoritairement homophobes, antisémites et racistes.
Ça, c'est vrai.
Et vous dites que les Russes n'aiment pas Gorbatchev. Alors pourquoi n'aiment-ils pas le père de la perestroïka? Parce qu'ils ont perdu trop d'avantages.
Non, parce que je ne sais pas exactement, mais du jour au lendemain, la Russie qui était... Tout le monde avait une vie relativement aisée, s'est trouvée dans la misère. Parce que sous le régime soviétique, vous savez, le loyer était gratuit, pratiquement. Tout le monde avait un métier. La nourriture coûtait rien. On vivait pauvrement, mais on vivait, il n'y avait pas de misère.
Il n'y avait pas de superflu quand même.
Non, mais il n'y a pas de misère. L'important, c'est de vivre. Les gens, la Russie soviétique avait amené un niveau de vie pour tout le monde, je veux dire. Il n'y avait pas de mendiants, il n'y avait pas ce qu'on voit à Paris aujourd'hui. Vous voyez, enfin, ouais, je ne sais pas, à Dijon, je ne l'ai pas vu, mais à Paris, c'est effrayant. Le paupérisme qui gagne. Donc, du jour au lendemain, avec la privatisation, le capitalisme sauvage, la plupart des gens se sont trouvés dans la misère. Il n'y a plus de quoi manger, plus de quoi se loger. Et donc, pour eux, Gorbatchev, c'est celui qui a détruit. Pour l'international, ils s'en fichent que Prague soit libérée, que Budapest soit libérée. Les Russes, ils s'en balancent. Les Russes sont tombés d'un état de prospérité, parce que c'est pas le mot, mais de sécurité, si vous voulez, économique, un état de misère. Donc Gorbatchev, pour eux, le déteste.
Vous abordez un aspect absolument formidable. Ça m'a énormément intéressé. C'est cette fameuse philosophie et nécessité du sacrifice.
Ah oui, ça, c'est ce qu'il y a de plus.
Dans l'âme slave et dans l'histoire russe. Alors, vous parlez de cette déraison du sacrifice. Alors, vous parlez des frères Boris et Gleb,
oui,
qui ont consenti à se faire tuer, oui, avec l'idée qu'ils sauveraient la Russie. Oui. Et voilà ce que vous montrez, c'est que le Russe accepte d'être sacrifié.
Mais oui, mais ça explique tout. Et ça explique surtout le communisme, à mon avis. Pourquoi est-ce que, parce qu'il y a eu 70 ans de communisme, on leur disait... vous vivez pauvrement, mais demain, ça sera mieux. Vous savez, ces slogans. Et ils sont sacrifiés. Ils ont sacrifié leur bonheur matériel. Ils ont sacrifié leur bien personnel pour un idéal improbable. Et ça, c'est... Et toute histoire russe, c'est une histoire de sacrifice. C'est-à-dire qu'il faut que les meilleurs se sacrifient pour que l'histoire avance, pour qu'il y ait quelque chose de... Ça, c'est moi, c'est une idée très belle, que vous trouvez dans l'art, dans l'histoire, dans la littérature, partout.
Vous faites référence à une nouvelle. Alors, je ne sais plus de qui elle est. C'est la nouvelle russe qui a pour titre Moumou.
Ah, ben, c'est merveilleux, c'est Tourguéniev.
Et là, c'est extraordinaire, ouais, parce que cet homme, donc un cerf, est réveillé par ses maîtres, parce que sa chienne à laquelle il
voulait... Non, c'est la maîtresse qui est réveillée.
La maîtresse est réveillée.
Moumou est un valet sourd-muet qui n'a qu'un amour, c'est sa chienne. Bon, tout va bien, mais une nuit, la chienne aboie. Et le lendemain matin, la maîtresse, une espèce de vieille rombière, acariâtre, furieuse, dit à Gerasim, je crois qu'il s'appelle, va noyer cette chienne qui m'a réveillé. Et le type obéit.
Sans se rebeller.
Et ça, c'est très russe, cette habitude. Ça explique beaucoup aussi l'histoire du communisme. Vous voyez pourquoi ils se sont acceptés, ça, parce que... Ils ont toujours été dominés, les Russes, hein, depuis 3000 ans. Ils n'ont jamais été libres. Il y a toujours eu des despotes qui les ont oppressés. Et ils ont intériorisé ça en philosophie du sacrifice et de la... Voilà, il faut s'immoler. C'est très beau, moi, je trouve. Il y a une dimension mystique, vous voyez, que les Occidentaux ne comprennent pas.
Et vous allez même plus loin en disant, quelque part, que la mort de Tchaïkovski s'inscrit, oui, aussi dans ce,
oui,
thème du sacrifice.
Tchaïkovski a été condamné à mort par le tsar. Il aurait très bien pu...
Alors, en fait, il faut expliquer à nos auditeurs, pardonnez-moi Dominique Fernandez, oui, je vous interromps, c'est pas très convenant d'interrompre un académicien, mais c'est parce que Tchaïkovski, ce que j'ignorais, était homosexuel.
Ah ben ça, c'est archi connu.
Ah ben je ne le savais pas, alors, vous voyez, je suis inculte.
Ça se voit alors même dans son œuvre. Bon, il était homosexuel, mais comme si... qui était interdite en Russie, hein, comme aujourd'hui. Mais comme c'était un grand homme, on faisait semblant d'ignorer. Simplement, il y a eu une histoire de mœurs, il a séduit un mineur. Alors là, l'oncle s'est plaint au tsar, donc le tsar était forcé d'intervenir.
Mmh.
Donc il a réuni un tribunal d'honneur, comme on faisait, qui a dit à Tchaïkovski, ben, pour sauver l'honneur, il faut te tuer, on lui a donné du poison, il l'a pris. Et la symphonie pathétique, vous savez, qui finit par un long...
Un
murmure. Il savait qu'il était condamné à mort. Et ça, c'est bouleversant quand on sait ça. Mais il aurait très bien pu... Il avait une gloire universelle. Il avait voyagé dans le monde entier. Il aurait très bien pu s'en aller en Italie, en France, aux États-Unis, en Angleterre. Ben non, il a accepté, il a pris le poison. Là aussi, il y a cette idée, moi je pense, on n'a pas de preuves, il n'y a pas d'écrit, mais je pense que c'est aussi cette philosophie du sacrifice qui l'a poussé à accepter.
Nous parlons du dernier livre de Dominique Fernandez, Le Transsibérien, paru aux éditions Grasset. Alors il y a des pages terribles sur la mort, l'assassinat de la famille impériale de Nicolas II et sa, et sa famille. Alors c'est abominable.
Oui,
mon
ça,
Dieu.
Ça c'est bien connu. Mais bien que on discute toujours de savoir qui est responsable de cette mort, parce que le Kerensky, vous savez, le premier, la révolution, ne savait pas quoi faire de la famille du tsar qui avait abdiqué en 17. C'est quand même le tsar, c'était quand même le père du peuple, tout ça. Donc on l'a expédié en Sibérie avec sa famille, mais dans de très bonnes conditions. Et puis après, on a décidé de faire son procès à Moscou. Mais alors, il y a une chose très bizarre, c'est que le train transsibérien devait passer à Ekaterinbourg, qui était connu pour être le soviet, c'était pendant la révolution, le plus dur, parce que c'est une ville ouvrière. Et on pense que les dirigeants soviétiques, c'est-à-dire Trotsky et Lénine à l'époque, espéraient que le train serait arrêté là et que le soviet local ferait justice. Et c'est ce qui s'est passé. Mais on ne sait pas si Lénine qui a donné l'ordre d'exécuter Nicolas II et sa famille, ou si c'est le soviet local qui a pris l'initiative. Toujours-t-il que le train a été arrêté, la famille emprisonnée de façon beaucoup plus dure, et puis liquidée sauvagement dans une cave, le tsar, sa femme, les quatre filles, le fils, le médecin, le valet, enfin,
le cuisinier,
tout le monde a été tiré à bout portant, comme ça, dans une cave. C'était absolument affreux.
Et il y a ce détail où vous expliquez que les filles du tsar, les balles ricochaient sur leurs broches.
Oui, parce qu'elles avaient tous leurs bijoux. Elles étaient bardées de diamants qu'elles avaient emportés. Et les balles, donc, ricochaient. Il a fallu les tuer
après. À la baïonnette.
Oui, c'est ça. Oui, c'était affreux. Alors, c'était affreux. Ça, c'est affreux. Ces beaux filles, ces enfants, en tout cas, bon... qu'on ait liquidé le tsar, c'est comme Louis XVI, je veux dire, bon, c'est injuste, mais c'est normal, dans une révolution, il y a toujours une tête de Turc, mais les quatre enfants et le petit garçon qui avait 14 ans, c'était assez affreux.
Thank you. contacter Radion 03 86 46 50 50. Radion.
Vous aurez sans doute reconnu la musique du film de David Lean, Le Docteur Jivago, sorti sur les écrans en 1965 et adapté du roman de Boris Pasternak. Retrouvons notre invité, l'académicien Dominique Fernandez, qui vient de faire paraître Transsibérien aux éditions Grasset.
Alors Alexandre Dumas et un très grand nombre d'écrivains français ont aimé la Russie, ont accueilli des romanciers russes. Vous écrivez à un moment que la culture des Russes s'arrête à Zola. Qui expliquerait qu'effectivement Dominique Fernandez ne soit pas très bien connu en Russie.
Ben, vous savez, alors, oui, il y a Zola évidemment qui est très, très, très connu. Au moment de la Révolution, donc évidemment la littérature française bourgeoise, capitaliste, a été exclue. Il y avait trois. Moi, quand je commençais à aller en Russie en 1993, il y avait trois écrivains français connus, les trois seuls. C'était M. André Stille, qui était membre du bureau central du Parti communiste français. Il y avait Pierre Gamara, Itou, et M. Lafitte. C'était trois communistes, écrivains totalement nuls, traduits à des millions d'exemplaires, parce qu'ils étaient des bons communistes. Et les autres, bon, il y avait un peu Hervé Bazin, qui avait eu le prix Staline, qui était vaguement compagnon de route. François Sagan, il s'est traduit, parce que c'était comme un article de Paris, vous voyez, comme des bonbons, comme ça. Mais le reste, zéro. Mais ça, c'est pour des raisons politiques. Hein, c'était le...
Et étonnamment, Michel Strogoff est inconnu.
Oui, alors c'est le seul roman de Jules Verne qui n'est pas connu. C'est très curieux. Car c'est un admirable roman, très juste sur la Russie, très, très beau. Et tous les gens que j'ai rencontrés ne connaissaient pas.
Alors vous sacralisez Andreï Makine. Je vous cite, sans Andreï Makine, le paysage littéraire français serait différent. Alors voilà aussi un parcours d'un Russe, d'un vrai Sibérien, qui a souffert aussi.
J'admire beaucoup Makine. Vous savez, né à Krasnoïarsk, a grandi là. Ses premiers livres se passaient là. Et c'est devenu un écrivain français, parce qu'il écrit en français. Il a eu le prix Goncourt en 1995.
Et ses parents ont été déportés en Sibérie.
Ses parents ont été déportés, et c'est un des grands écrivains français d'aujourd'hui. Moi, je trouve que c'est un des plus grands écrivains et qui a apporté dans la littérature française, qui était toujours un peu étriquée là, entre le nouveau roman, l'autofiction, toutes ces bêtises, il a apporté le grand souffle de la Russie. Et ben, dans son pays, on ne le connaît pas.
Alors, on a quand même des Russes dans la Pléiade, Bulgakov et Pasternak.
Oui, on a quand même quelques Russes, mais pas beaucoup. Hein.
Alors parlons un peu, si vous le voulez bien, Dominique Fernandez, d'Ossip Mandelstam. On a parlé beaucoup d'antisémitisme. Oui. Alors voilà aussi un poète juif. Oui. Donc il naît en 1891, il meurt en 1938, il est déporté en Sibérie. Alors lui, il a écrit contre Staline et il ne faut pas écrire contre Staline.
Oui, alors lui, c'était un très grand poète symboliste, disons, de la grande génération des Pasternak, Maïkovski, tout ça. Et il a écrit en 1934, un sonnet terrible contre Staline, une épigramme.
Le montagnard du Kremlin.
Oui, avec des doigts boudinés comme des vers blancs, enfin, une chose atroce, qui n'a pas été publiée, mais que tout le monde savait par cœur. La police, la première. Et donc, évidemment, il a été exilé à Voronej, une ville en Russie, et puis une seconde fois, en Sibérie. Et il est mort, sans doute, du typhus, dans un camp près de Vladivostok, ou dans le train, on ne sait pas très bien. Son corps a été jeté à la fosse commune. C'était une chose épouvantable.
Alors, on a dit combien actuellement les Russes, notamment à Vladivostok, pouvaient apprendre le français à travers Grand Corps Malade, oui, ou adoraient Joe Dassin. Et donc vous, Dominique Fernandez, vous êtes revenu avec un petit peu d'amélioration de votre capacité à parler un peu le russe, ou vous ne le parlez pas?
Non, moi j'avais appris avant, il y a 10 ans, j'ai fait beaucoup de séjours en Russie. Parce que moi, je vais tous les ans en Russie depuis 20 ans. Hein. C'est un pays, j'ai besoin de ce pays. C'est un pays, pour moi, c'est le pays de la culture. Alors que la France est de plus en plus un pays de l'inculture.
Ah.
Hélas. Quand on a un président de la République qui vous dit que la princesse de Clèves ne sert à rien, on est tombé dans... Jamais un Russe ne dirait ça.
Vous savez que ce président de la République est un nouveau candidat, Dominique
Fernandez. Oui.
Ça vous inquiète?
J'espère bien qu'il sera battu. Enfin, ça, c'est autre chose. Mais après, un homme d'État français, c'est le premier qui ose dire ça. Quand on pense à tous nos hommes d'État importants, pensez à Léon Blum qui écrit La Lumière sur Stendhal, pensez à De Gaulle qui était un grand écrivain, à Mitterrand, à Pompidou qui fait une anthologie de la poésie. Enfin, bref, un homme d'État français,
J'explique aux auditeurs, Dominique Fernandez vient d'envoyer un baiser à Daniel Salnave qui nous quitte pour aller sur un autre plateau radio.
Donc, un homme d'État français qui vous dit que la présence d'examen ne sert à rien, il encourage la culture. Dont le grand homme, c'est Johnny Hallyday, c'est quand même effrayant. La France est devenue le pays de la culture. Enfin, pas tout le monde. Tout le monde n'est pas sarkozyste, mais c'est devenu quand même la place de la culture en Russie. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est. Vous avez 80 théâtres à Moscou, toujours pleins. Vous avez 6 salles d'opéra. Vous avez c'est merveilleux. Ici, c'est la consommation, la bouffe, le week-end, le truc. Ça n'existe pas, tout ça. Ça n'existe pas. Ce qui compte, enfin, ceux que je connais, ceux qui lisent, évidemment, ceux qui s'intéressent, ils font une heure de métro après une journée de travail très difficile pour aller écouter un concerto de Rachmaninov, vous voyez. Il n'y a pas de snobisme parce que les places sont pas chères. On ne va pas pour montrer qu'on a payé très cher sa place, comme ici. On y va parce qu'on a besoin de la musique de Rachmaninov. Et ça me touche. Donc moi, je vais tous les ans en Russie pour ça, essentiellement, parce que pour moi, quinquer le moral, vous voyez.
Alors, est-ce que Transsibérien va être traduit en russe?
Ça dépend, vous savez, les éditeurs. Moi, ça, je ne me mêle pas, je ne sais rien. J'aimerais bien, évidemment, mais je ne vais pas vous dire, je ne sais pas.
Alors, Dominique Fernandez, une petite question. De quoi parle-t-on, hormis le dictionnaire à l'Académie française? Qu'est-ce qui préoccupe vos confrères académiciens?
Non, mais la grande affaire, c'est le dictionnaire. C'est très important.
Certes, mais à côté du dictionnaire.
Non, mais c'est ça,
c'est le dictionnaire.
Le reste, ça ne compte pas. On fait le dictionnaire 3 heures tous les jeudis matins. Le dictionnaire, c'est capital, parce que... tu sais, si on se moque de ce dictionnaire, de sa lenteur, mais le dictionnaire reflète l'évolution de la langue. C'est pour ça qu'on est à la 9e édition. On est à la lettre R, l'édition. Puis quand ce sera fini, on va recommencer, parce que la langue évolue. Les mœurs, l'histoire, et il y a 40 000 nouveaux mots qui demandent à entrer, la technologie nucléaire, l'informatique, tout ça. Donc pour chaque mot, on examine une définition, on donne des exemples. C'est ça le boulot. Ça, et puis les prix. Il y a 60 prix à donner, qui vont de 1 000 euros à 300 000. Il y a les prix de fondation, les prix de poésie, de biographie, même de chansons. On a donné justement, je crois, un prix à Grand Corps Malade. Et puis le reste, c'est un club, on discute, on se rend compte, mais on travaille beaucoup à l'Académie.
Mais je n'en doute pas, Dominique Fernandez. Oui. Vous ne pensez pas que je doute de votre
moque,
énergie.
Moi aussi, je me suis moqué, parce qu'on voit des vieillards comme ça, un peu ramollis. C'est pas du tout ça. Il y en a, mais il y a une minorité agissante. Qui est tout à fait passionnante.
Eh bien, écoutez, en tout cas, vous l'avez été, vous, passionnant ce soir devant le micro de Wagon Livre, émission littéraire de Radion. Et je vous en remercie, Dominique Fernandez. Je rappelle Merci. Donc votre dernier livre. Alors, on peut relire, hein, Porporino, c'était le prix Médici 1974.
Oui.
Le monde des castrats dans la Naples de l'extrême fin du XVIIIe siècle. Mais enfin, dans l'immédiat, on peut aussi voyager à vos côtés. En lisant Transsibérien, donc aux éditions Grasset. Merci Dominique Fernandez d'avoir Merci. Répondu à ces questions. Je vous confie à nouveau les références de l'ouvrage de notre invité. Il s'agit de Transsibérien, disponible auprès de vos libraires aux éditions Grasset. Retour cette fois-ci en terre bourguignonne et plus précisément en Morvan avec Didier Cornaille. En effet, il vient de faire paraître son 20e roman aux presses de la Cité, roman qui a pour titre « Sur les cendres des ronces ». Rencontré au 4e salon du livre de Brassy dans la Nièvre, non loin de l'Orme, dimanche dernier, 25 mars, j'ai demandé à Didier Cornaille de nous présenter son dernier roman.
Oui. C'est surtout, pour le situer rapidement, le troisième volet de deux romans qui ont eu leur heure à leur époque. Ce sont Les Labours d'hiver et Les Terres abandonnées, mais qui sont parus en 95 et 96. Ça remonte tout de même un certain temps. C'était ces deux romans, Les Labours d'hiver et Les Terres abandonnées, qui sont parus aux presses de la Cité aussi d'ailleurs, et qu'on est en train de reprendre dans une autre collection aux presses. C'était le constat du déclin du monde rural pendant tout le XXe siècle, hein, cette espèce de lent déclin qui a amené à la fin du XXe siècle à l'extinction d'une époque. Le monde rural traditionnel, celui dont nous venons tous, parce qu'on est tous plus ou moins issus du monde rural, bien sûr. La France étant un pays qui a été rural jusqu'au début du XXe siècle, totalement rural. Ce monde-là était en train de mourir complètement. Et à la fin des années 80, on en venait, certaines personnes, moi j'ai jamais été comme ça, mais certaines personnes en venaient à dire que les villages étaient condamnés à mourir, à disparaître. Et ce deuxième tome, Les Terres Abandonnées, se terminait un peu sur ce constat, sinon de renoncement, du moins d'inquiétude. Que va être l'avenir ?
Résignation.
Pas de résignation, parce que l'espoir était toujours là. Et d'ailleurs, le personnage principal des deux livres, Marie Courbet, qu'on retrouve dans celui-là, femme très volontaire, qui s'était retrouvée paysanne après 14-18, parce qu'il avait bien fallu tenir les fermes pendant que les hommes n'étaient pas là, n'a jamais perdu d'espoir, et jusqu'au bout, elle y croyait. Mais elle y croyait sans trop savoir à quoi elle croyait, parce qu'on ne voyait pas très bien où était l'avenir. Il fallait bien s'arrêter sur ce constat. Les cendres des ronces, pour elle, pour Marie Courbet, c'est elle qui a cette expression, ce sont les ronces du passé, qu'on brûle un jour pour faire revenir l'herbe. Et sur ces cendres pousse une herbe très verte. Vous savez que c'est des cobuages, c'est connu ça. Et c'est ça, sur les cendres des ronces. C'est l'espoir de l'herbe verte qui repousse sur le passé qu'on a fait brûler. Parce que 20 ans, plus de 20 ans après, eh bien, je me suis aperçu que non seulement ces villages qu'on avait un peu trop vite condamnés à disparaître, non seulement ils sont toujours là, mais ils sont en train de revivre. Et le monde rural est dans une phase de redynamisation. Vers quoi va-t-on ? Comment ce sera ? On ne le sait pas. Parce qu'on en est au début. Et heureusement, ça se passe lentement. Il ne faudrait pas que ça se passe trop vite. Hein. Mais il est indéniable que le monde rural est en train de revivre. Deux chiffres, on ne va pas se noyer de chiffres, mais deux chiffres. Entre les deux derniers recensements, 1999 et 2008, les villes de Bourgogne ont perdu 3,5% de leur population. Les villes de Bourgogne. Mais la Bourgogne, dans son ensemble, a gagné 1,5% de population. Il faut bien qu'elle vienne de quelque part, cette population.
Vous pensez peut-être que la crise économique va ramener les gens à des fondamentaux que seraient la terre, la nature, peut-être une vie plus saine ?
La crise, non, c'est pas seulement la crise. Bon, elle rentre en ligne de compte. Alors qu'elle rentre en ligne de compte, comment on ne le sait pas ? Parce que d'un autre côté, les gens qui pensaient qu'ils allaient vivre à 40 km de la ville et qu'ils iraient travailler tous les matins à la ville, s'aperçoivent que du fait de la crise, le carburant coûte cher et que l'argent en a de moins en moins. Donc, il y a du pour et il y a du contre. Mais il y a des tas de choses qui se sont accumulées depuis longtemps. Je vais en prendre qu'une comme exemple, mais ce n'est qu'un petit exemple. La randonnée. Le jour où on a retrouvé les chemins, c'est-à-dire dans les années 60-70, on a commencé à redécouvrir les chemins. Tous ces gens qui se sont mis à courir les chemins, qui avant étaient des gens soit qui ne prenaient pas de vacances, soit quand ils prenaient des vacances, ils partaient sur la côte. Et ils se sont aperçus qu'entre la côte et leur ville, il y a un monde rural. Et un monde rural qui est quelque chose de vivant, d'agréable, et où il y a des possibilités, un espace qui est à reconquérir. Moi, j'appelle ça une nouvelle frontière. Et ces gens-là se sont rouverts à un monde rural qu'ils avaient totalement oublié. Mais ce n'est qu'un exemple. Entre mille, il y en a beaucoup d'autres. Je vais vous prendre un autre exemple, tout à fait à l'opposé. Renault, la grande marque d'automobile, Renault, hein, exemple d'entreprise centralisée s'il en est, jacobine s'il en est. On s'est aperçu chez Renault, non mais c'est normal, c'est très français, mais c'est aussi normal. On s'est aperçu, ce qu'il y a, c'est que la France a du retard en la matière, les autres pays sont beaucoup plus en avance. On s'est aperçu que sur les 44 000 emplois de Renault, et c'est Renault qui a fait l'étude, c'est pas moi, c'est interne à Renault, 28 000 emplois sur 44 000 pourraient se trouver à domicile. 28 000 pourraient se détacher de l'entreprise. On ne va pas tous les mettre chez eux, ce serait trop. Mais Renault a tout de même proposé à ses salariés depuis 2007 la possibilité de travailler depuis chez eux. C'est extraordinaire. Alors il y en a quelques milliers pour l'instant, mais ça augmente. Autre exemple, mais on pourrait aller loin comme ça, tous les Hollandais ou les Belges qui vivent en Morvan ou ailleurs, il y en a partout, mais s'ils sont en Morvan, je prends ceux du Morvan parce que c'est chez moi, je les connais, hein, c'est parce qu'on est pas loin de la gare TGV, pas loin de l'autoroute, qui permettent de remonter rapidement en Hollande pour garder le contact avec l'employeur parce qu'on continue à travailler avec l'entreprise hollandaise. Mais ça n'empêche qu'on s'est installé là où il y a de l'espace rural, c'est-à-dire pas chez eux, chez nous.
Et alors, derrière chaque roman de Didier Cornaille, il y a l'engagement pour la défense
de la province, de la vie rurale ?
Engagement, oui. Défense, non. Je ne suis pas là pour défendre quoi que ce soit. Je suis là pour constater. Je ne suis pas militant. C'est plutôt journalistique. Je suis journaliste de profession, il ne faut pas l'oublier. Hein. Je ne suis pas militant, c'est pas pour ça. Mais j'ai la conviction que la France a fait l'erreur pendant très longtemps, disons depuis la moitié du 19e siècle jusqu'à la fin des Trente Glorieuses, hein, de se dire les bras dont les usines ont besoin, il faut aller les prendre à la campagne pour les emmener à l'usine, hein, de la ferme vers l'usine. Des usines, il n'y en a plus. Puis des bras à la campagne, il n'y en a plus. Mais on continue, parce qu'on est en France, pays jacobin s'il en est, où quand on a pris des habitudes, surtout des habitudes administratives et surtout technocratiques, on continue, tant et plus, le même mouvement. Or, ce mouvement, il n'a plus de raison d'être. Et si j'ai milité contre quelque chose, quelque part, c'est effectivement contre ce mouvement qui crée, de par ce mouvement de la campagne vers la ville, qui crée un mur. Hein, où le citadin commençait à mépriser le rural. C'est une erreur complète. Et ce mur, on s'aperçoit qu'il est de plus en plus transparent. Ou du moins qu'il a de plus en plus de failles, si vous voulez. Et ça, je crois que c'est quelque chose... C'est pour ça que j'ai écrit ce livre, qui est un geste d'espoir. Espoir raisonnable et limité, parce qu'encore une fois, les choses démarrent lentement, fort heureusement. Mais il y a quelque chose qui est en train de se produire. Il fallait en être le témoin.
Une question autour des salons du livre, Didier Cornaille. N'y a-t-il pas trop de salons de livres ? Question délicate.
Trop, je ne sais pas.
Volontiers provocatrice.
Pour l'auteur, en tous les cas, ça laisse la possibilité de faire un choix. Hein, donc, ce n'est pas trop mal. Je crois que ce qu'il y a surtout, c'est que si un petit salon, et ça n'a rien de péjoratif ce que je dis là, un petit salon comme celui de Brassy garde toute sa raison d'être, toute son originalité, mais je mets dans le coup aussi celui d'Anneau, que j'ai créé aussi. Bon. Je crois que les grands salons, Saint-Étienne, Brive, a fortiori, Brive, c'est l'archétype, mais alors l'archétype du parisianisme. Hein, alors donc, c'est pas tellement pour moi. J'y vais tous les ans, mais bon. Besançon, Limoges, etc. Ces grands salons-là ont eu leur heure de gloire.
N'oublions pas Livre en Vigne.
Qui, pour moi, n'est pas un grand salon. C'est un salon moyen qui a beaucoup plus sa raison d'être. Et d'ailleurs, marche bien. C'est pour ça que je ne le citais pas. Mais je pourrais, de la même façon, je ne vous ai pas cité Autun, qui est un salon qui garde une taille moyenne. Et là, pour sa zone d'achalandage, si j'ose dire, sa région, ça garde son sens. Mais trop grand, ces salons qui ont eu leur heure de gloire, eh ben, ont mal vieilli. Ils ne se sont pas renouvelés, mais ont mal vieilli. Comme on se trouve dans une période où les porte-monnaies s'ouvrent plus difficilement qu'à d'autres époques, eh ben, ils perdent énormément de clients et de chiffre d'affaires baisse. Je pense que c'est là quelque chose à faire, où il faudra rénover. Comment, ça, c'est pas à moi de le dire.
Didier Cornaille au micro de Wagon Livre. Je rappelle le titre du dernier roman de Didier Cornaille, paru aux Presses de la Cité, sur les cendres des ronces. Le moment est bientôt venu de nous séparer. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain. Ce sera le 65e numéro de Wagon Livre, mercredi 4 avril. Et nous serons en compagnie de François Dorcival, un familier de l'Élysée, journaliste et historien, éditorialiste à Valeurs Actuelles et au Figaro Magazine. François Dorcival est membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Et nous parlerons avec lui de l'édition Revue et Augmentée, du nouveau roman de l'Élysée, 3 siècles d'histoire de France. C'est aux éditions du Rocher et nous aurons l'occasion, à l'approche des élections présidentielles, eh bien, de revenir sur l'histoire du palais de l'Élysée qui a vécu les pages les plus dramatiques de l'histoire de France, l'abdication de Napoléon Ier, le coup d'état du futur Napoléon III. Mais encore le départ d'Albert Lebrun en pleine défaite de 1940 ou alors celui du général de Gaulle en mai 68. Ce sera donc mercredi prochain 4 avril à partir de 21h toujours sur votre radio locale. Merci de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée. Bonne nuit à vous et à mercredi prochain. Au revoir.